Commencer avec un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, on est devant toi encore ce soir pour se tourner dans ta parole. Merci, Seigneur, pour ce trésor précieux que tu nous as donné. Ta parole qui te révèle à nous, Seigneur. Et on te remercie pour ton esprit aussi qui nous éclaire pour nous aider à comprendre les choses que tu veux. C'est notre nourriture spirituelle, Seigneur, qu'on a besoin constamment pour te connaître et pour t'aimer. Plus on te connaît, Seigneur, plus on t'aime à cause des grandes choses que tu as fait pour nous. Seigneur, on te demande ta bénédiction sur ce temps qu'on passe ensemble ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, on va lire dans Lévitique, au chapitre 6, au chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, puis on va lire à partir du verset 6. On va lire un petit peu plus long que le verset 6, parce que peut-être que si on a le temps, on va commencer dans la fête des prémices. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire, mais si on peut, on va commencer dans la fête des prémices aussi. Donc, dans Lévitique, au chapitre 23, à partir du verset 6, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. On va s'arrêter là dans le Lévitique. On va aller aussi dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, et on va aller au verset 12. Exode 12, on sait que le chapitre 12 de l'Exode, c'est là qu'était la fête de Pâques, la première Pâque qui était instituée en Égypte, qui était célébrée en Égypte. Mais on va voir maintenant un peu plus loin par rapport à la fête des pains sans levain, comme on a dit auparavant, c'est la fête des pains sans levain est étroitement liée à la fête de Pâques, parce que c'est la fête de Pâques représente notre salut, puis la fête des pains sans levain représente notre marche chrétienne après qu'on est sauvé. C'est certain que la vie chrétienne commence au moment de notre salut. Puis on va lire à partir du verset 8 dans Exode 12. Exode 12, au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, c'est-à-dire la chair de l'agneau qui avait été immolé. La chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On va aller maintenant au verset 15. Verset 15, il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Donc, on voit vraiment que l'emphase est mise, qu'il fallait absolument pas qu'ils aient du levain même dans la maison, qu'ils mangent plusieurs fois répétées, qu'ils ne devaient pas manger du pain sans levain. On a vu la semaine passée que le levain représente toujours le mal qui s'infiltre, ou le péché, ou la corruption morale, la corruption doctrinale qui s'infiltre et qui fait un effet sur toute la pâte. Puis c'était important le pain qu'il mangeait, ce soit du pain sans levain. On avait parlé du fait que c'est une séparation du mal, ça c'est le côté négatif, de séparer, d'enlever le mal pour se nourrir, ça c'est le positif, se nourrir du pain et aussi, comme on a vu, de l'agneau qui avait été immolé, l'agneau qui représente le Seigneur Jésus-Christ, qui était notre agneau pascal, mais aussi les pains sans levain, qui est notre nourriture maintenant, une nouvelle nourriture, qui est une nourriture qui était sans levain, en enlevant le mal, on se nourrissait notre nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais on a lu aussi dans notre passage ici qu'il y avait aussi des herbes amères. Puis on va parler un petit peu de ça ce soir, des herbes amères. Il mangeait le pain sans levain, l'agneau, aussi avec des herbes amères. Mais les herbes amères nous rappellent les souffrances nécessaires pour notre rachat ou pour notre salut. Il a fallu qu'il y ait des souffrances. Puis, déjà au début, quand le péché est entré dans le monde, la première fois que l'Évangile a été prêché, c'est dans Genèse 3,15, quand le Seigneur a donné le jugement au serpent qui avait tenté la femme, qui avait amené l'homme à pécher. On voit dans Genèse 3,15, quand le Seigneur a donné le jugement sur le serpent, bien, dans ce jugement-là, il y avait l'Évangile. Puis c'est ça que pour notre rachat, dans Genèse 3,15, il dit: « Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, dans la victoire que le Seigneur Jésus a eue pour nous sur Satan et sur la mort, sur le péché, eh bien, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ souffre. Donc, il a des souffrances. C'est pour ça qu'il y avait des herbes amères. Quand on pense aux souffrances de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, en écrasant la tête du serpent, eh bien aussi, lui était blessé au talon. C'est sûr que ça nous rappelle que le Seigneur Jésus a souffert sur la croix pour nos péchés. On chante des fois, mon Sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Donc, mais ça, c'est ça que le Seigneur nous demande aussi de se souvenir. Quand on prend le repas du Seigneur, de se souvenir de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de sa personne. Et puis c'est ça qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur selon ses instructions. On se souvient de lui dans ses souffrances. Mais quand on prend le repas du Seigneur, il y a une expression qu'on voit, aigre douce. Puis c'est sûr que quand on se souvient du Seigneur Jésus, c'est sûr qu'il y a une certaine tristesse en pensant qu'est-ce que nos péchés lui ont causé, la souffrance que nos péchés lui ont causée sur la croix du calvaire, mais aussi il y a quelque chose de doux pour nous parce que ses souffrances et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix nous a acquéri un salut parfait. Puis on se réjouit dans ce salut-là parce que il ne dépend pas de nous, il dépend de lui, mais il en a coûté des souffrances. On pense même au Seigneur Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémané, en anticipant la croix, eh bien, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Puis on sait que le Seigneur savait exactement ce qu'il allait souffrir, même avant de venir, quand il est venu dans le monde, il savait exactement qu'un jour il serait sur la croix et il souffrirait pour nos péchés. Donc c'est bon. Seigneur, il veut qu'on s'en souvienne aussi, ça nous ramène toujours à réaliser que notre salut dépend de son œuvre à la croix, puis de ses souffrances, puis ça nous parle en même temps de son amour pour nous, comment il nous a aimés, qu'il s'est donné lui-même pour nous. Je vis, comme Paul disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Donc ça nous parle des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est vraiment remarquable, que l'Église dans la gloire n'aura aucune tache, aucune ride, rien de semblable, peut-être parfaite en beauté, mais le Seigneur Jésus, lui, va porter les marques du calvaire dans l'éternité, des marques dans ses mains, dans son côté percé, ses pieds. Mais lui, c'est pour racheter cette Église-là. L'Église, c'est elle qui avait péché, mais dans l'éternité, elle va être belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, à cause de l'œuvre de son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, de son époux. Donc, mais on sait que ces choses-là, ça nous garde dans l'humilité. Quand on pense à ça aussi, c'est pour ça qu'il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, il a fallu s'humilier devant le Seigneur pour être sauvé. Il a fallu reconnaître ce qu'il avait fait pour nous. Puis ça, c'est la pierre d'achoppement de l'Évangile, parce qu'il faut se reconnaître perdu. Il faut reconnaître que c'est nos péchés qu'il a portés en son corps sur le bois. C'est nous qui lui avons causé cette souffrance-là. Puis ça nous garde dans l'humilité. Mais en même temps, ben, on est émerveillé par son amour pour nous, comment il nous a aimés. Nous qui méritions pas cela, il l'a fait par grâce pour nous. Mais une chose quand on pense aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ, on sait que c'est volontairement qu'il a souffert ainsi. Dans Jean 10, quand on voit dans Jean 10, le Seigneur nous dit clairement que c'est lui-même qui s'est donné volontairement. Puis c'est sûr qu'avant d'être sauvé, peut-être on voyait la croix comme quelque chose qui faisait pitié, mais un peu, on voyait peut-être le Seigneur plus comme quelqu'un qui n'avait pas le choix, qui était à cause des hommes, il était mis sur la croix. Mais le Seigneur nous dit clairement dans Jean 10, c'est ça qui réchauffe notre cœur aussi. Il dit au verset 17 de Jean 10, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Donc, le Père m'aime, on sait que dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est le Père qui a donné son Fils par amour pour nous, mais il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Parce que non seulement il est mort selon les Écritures, mais il est aussi ressuscité selon les Écritures. Il est enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Mais il dit au verset 18, personne ne m'ôte la vie, ne me l'ôte, c'est-à-dire sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et ça nous donne vraiment une grande joie de savoir que c'est par amour que le Seigneur est resté sur la croix. Ce n'est pas les clous qu'il tenait sur la croix, mais c'est vraiment l'amour pour nous, pour nous sauver de nos péchés. Ça, c'est. Mais le Seigneur, il établit un principe là, c'est que avant la gloire, ça va être la souffrance. Parce qu'à cause du péché. C'est toujours à cause du péché, parce que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu besoin de souffrir, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir de souffrance. Mais à cause du péché, il doit avoir la souffrance. Ça devient un principe que le Seigneur il nous montre, c'est que maintenant, avant d'aller dans la gloire, il faut souffrir. Nous autres aussi, on souffre dans ce monde. On va voir ça un petit peu. Mais dans Luc 24, au verset 25, c'est certain que dans la pensée de l'homme, la souffrance, on veut éviter la souffrance à tout prix. Mais le Seigneur Jésus, quand il a marché sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, puis même quand il disait auparavant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des anciens et des scribes et des pharisiens, qu'il souffre beaucoup et qu'il meurt, ben, Pierre lui avait dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, parce que, puis le Seigneur lui avait dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Puis Pierre voulait pas voir le Seigneur souffrir, mais il fallait, puis on voit ici dans Luc, au chapitre 24, les versets 25 à 26, il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc le Seigneur leur a dit ici, vous êtes lents à comprendre, il fallait qu'il y ait les souffrances du Seigneur Jésus pour nous sauver de nos péchés. Donc c'est, mais le Seigneur, maintenant, on voit qu'il lui, il, maintenant qu'on est sauvé, il nous propose, il nous offre de souffrir pour lui maintenant. Puis C'est pour ça qu'on a les herbes amères ici. Puis c'est certain qu'avant d'être dans la gloire, on suit le chemin du Seigneur Jésus, lui qui nous a tracé la voie devant nous. Lui a passé lui-même dans la souffrance, puis là maintenant il est dans la gloire. Mais pour nous emmener dans la gloire, nous aussi on va devoir souffrir. Il y a une différence entre nos souffrances puis les souffrances du Seigneur Jésus. Mais avant la gloire, il faut qu'on souffre pour un temps. Mais quand on va, à partir de l'enlèvement, plus jamais on aura à souffrir. Ça va être la gloire éternelle. Puis même la parole de Dieu nous dit que pour toutes les souffrances du temps présent, il y a un poids éternel de gloire. Donc, le Seigneur nous propose de souffrir pour lui à cause de son nom. Mais nos souffrances à nous ne sont pas afin d'être sauvés. Mais nos souffrances sont parce qu'on est sauvés. À cause qu'on appartient au Seigneur Jésus, on va souffrir dans ce monde, dans un monde qui ont rejeté le Seigneur Jésus. Dans un monde qui est condamné, on est dans un terrain ennemi. Puis le Seigneur, eux, quand ils marchaient, quand ils ont célébré la fête des pains sans levain, il y avait le bâton à la main, les souliers aux pieds, ils étaient prêts à marcher. Puis dans cette nuit-là, ils ont parti pour marcher. Mais dans la marche, il y aurait des souffrances. Puis ils ont eu des souffrances aussi. On sait que Pharaon les a poursuivis. Il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés. Jusqu'à temps qu'il, puis même dans le pays, il y a eu des difficultés. Mais nous aussi, le Seigneur, il nous a pas compté de mentir, il nous a dit exactement ce qu'il en était, qu'il faudrait souffrir ici, pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Si on va dans Jean 15, on est dans Jean 15, les versets 18 à 21. Le Seigneur nous a avertis de ces choses-là, puis lui-même, s'il nous demande de souffrir pour lui, mais lui-même a souffert pour nous. C'est certain que nos souffrances n'égaleront jamais ces souffrances que lui a eues pour nous. C'est pour ça qu'on prend courage dans la souffrance, parce qu'on sait que c'est pour un temps. Puis, tandis que le monde, eux, ils vont souffrir pour l'éternité. Nous autres, on souffre dans le temps, mais dans l'éternité, il n'y aura plus de souffrance pour nous. Et dans Jean 15, au verset 18 à 21, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc le Seigneur nous a avertis clairement que à cause qu'on est appelé du nom du Seigneur Jésus, chrétien, ça vient du mot Christ, on est des gens qui appartiennent à Christ. Donc, ils nous traitent, le monde va nous traiter de la même façon qu'ils ont traité le Seigneur Jésus. Puis dans un sens, c'est un privilège pour nous d'être identifiés au Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que présentement, dans le monde, ça peut nous amener des tribulations, des persécutions, mais imaginez-vous quand il va revenir pour être admiré dans ceux qui auront cru. On va être content d'être identifié au Seigneur Jésus dans ce temps-là, parce que ça va vouloir dire qu'on va passer l'éternité avec lui. On va aller dans le chapitre 16 de Jean aussi, au verset 1. Le Seigneur avertit ses disciples, c'est dans la chambre haute, dans son ministère avec ses disciples en privé, avant d'aller à la croix. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. C'est sûr, des fois, il y a des gens qui pensent ou qui prêchent même que quand on est sauvé, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de problème, toutes les choses vont être réglées, ça va bien aller jusqu'au temps qu'on soit au ciel. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Puis il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc le Seigneur, il veut qu'on. C'est pour pas qu'on, quand arrivent les difficultés, qu'on dise, ben là, on s'est trompé. Le Seigneur, il nous avertit que c'est ça qui va arriver. Puis il ne veut pas que ce soit une occasion de chute pour nous, mais qu'on persévère à travers les souffrances. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Puis on sait que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait, il pensait servir Dieu en tuant les chrétiens. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais quand le moment où l'apôtre Paul a été sauvé, le Seigneur avait averti Ananias, c'est je vais lui montrer les choses qu'il devra souffrir. Puis Paul a souffert aussi après sa conversion à cause du Seigneur Jésus parce qu'il parlait de lui. Dans le verset 33 de Jean 16, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, Seigneur, il nous a laissé savoir clairement que pour le suivre, ça coûterait des souffrances. On va aller dans Hébreux au chapitre 10. C'est ça que nous parlent les herbes amères pendant qu'ils mangeaient les pains sans levain et l'agneau. Ils se nourrissaient aussi des herbes amères. Les dents. Puis on connaît ces choses-là, surtout dans d'autres moins pires, mais il y en a dans certains pays où ils souffrent encore plus que nous autres. Peut-être au début, nous autres, de notre vie chrétienne, on a connu des souffrances un peu comme ça aussi, mais Hébreux 10, au verset Hébreux 10, 32 à 33, il dit: Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachez que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Puis là, il donne l'exhortation: N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Donc, le Seigneur nous exhorte et nous avertit qu'il va y avoir des tribulations à cause de son nom, mais de ne pas perdre courage, de persévérer. C'est pour ça que quand il mangeait les pains sans levain avec les herbes amères, ça rappelait qu'il y aurait des souffrances, pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont identifiés au Seigneur. Dans le chapitre 13 d'Hébreux, les versets 12 à 14, on voit que c'est un terme récurrent dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 13, au verset 12 à 14, il est dit ici: Car c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc on voit ici, à travers les souffrances, on continue de porter du fruit pour le Seigneur par sa puissance. Donc on est appelé à souffrir pour lui, mais à cause du salut qu'il nous a donné, on ne perd pas courage. Parce que le Seigneur, il nous a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À travers les souffrances, le Seigneur nous donne la possibilité de supporter ces souffrances-là pour lui. Puis, il va nous rémunérer dans l'éternité avec un poids éternel de gloire. Mais on va aller dans 1 Pierre 4, les versets 1 à 4. Pierre aussi qui nous dit le même message ici. Donc, verset 1 de 1 Pierre 4, il dit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Puis il dit: C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc on voit ça, on expérimente ça, hein, quand des gens, ils se livrent dans le péché, puis si on les suit pas, si on va pas avec eux autres, ils se sentent jugés, puis ils vont nous calomnier, puis ils vont nous persécutés à cause de ça. Dans 1 Pierre 4, mais c'est ça qui est la vie dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 4, au verset 12 et 13, Pierre il leur dit ici: Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et vous, on se réjouit de ça, pas qu'on recherche la persécution ou la souffrance, mais on se réjouit parce que on va être dans l'allégresse à son retour. On va être content à ce moment-là d'être associé à lui, même si maintenant, dans le monde dans lequel on vit, étant associé au Seigneur Jésus, ça nous coûte des persécutions. Donc, on participe aux souffrances de Christ pour avancer son œuvre de rédemption. Pas pour procurer la rédemption, mais pour, parce que le Seigneur, il a commencé une œuvre en allant lui-même sur la croix. Il a accompli l'œuvre pour la rédemption. Mais maintenant, il nous a laissé à nous le privilège de proclamer cette rédemption-là à ceux qui sont comme nous autres auparavant, quand on était perdus dans nos péchés. Puis il nous demande d'aller proclamer cette nouvelle-là de rédemption pour ceux qui pour que les gens soient sauvés. Dans Colossiens, au chapitre 1 et le verset 24, Paul dit ici: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Donc, Paul avait souffert, comme j'ai dit tantôt. Paul, il a fait souffrir les chrétiens, mais du moment où il s'est converti au Seigneur Jésus, qui s'est identifié, qui a parlé du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui-ci a souffert. Il dit: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu qui m'a, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc, on voit que Paul, il parle de ce qui manque aux souffrances de Christ. Ce n'est pas des souffrances pour le salut de nos âmes, mais c'est des souffrances pour avancer son œuvre, pour proclamer l'Évangile. Puis aussi, comme Paul le faisait si bien, il était préoccupé par les églises pour les faire avancer dans la foi, les encourager. Puis, c'est sûr que ça lui coûtait des souffrances. Parce que s'il avait abandonné, ben, il n'y aurait pas eu ces souffrances-là, mais parce qu'il persévérait pour amener l'Évangile, puis aider les chrétiens à avancer dans la foi qu'ils avaient, le salut qu'ils avaient eu par la foi. Donc ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. Puis contrairement, comme on a dit tantôt, à certains qui prêchent, il y a des gens qui nous prêchent un Évangile de prospérité. Si vous êtes sauvés, vous allez demander n'importe quoi au Seigneur, vous allez être riche, vous n'allez plus avoir de problème, toutes les difficultés vont disparaître. Ce n'est pas la réalité. Puis si on se fait tromper comme ça, ben, ce n'est pas la réalité. On va souffrir. Mais il faut être prêt à ça. Il faut s'armer des paroles du Seigneur Jésus qui nous a dit qu'on allait souffrir pour un temps, mais c'est pour un temps. C'est ça qui nous encourage. On souffrira pas pour l'éternité. On souffre pour un temps à cause du fait qu'on est identifié à lui puis qu'on fait avancer son œuvre. Si les gens ont haï le Seigneur Jésus parce qu'il a fait cette œuvre de salut. Puis maintenant, ils vont nous haïr aussi si on continue à faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais ça ne nous décourage pas. Comme Paul était déterminé qu'il allait, il dit: Pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. Donc s'il allait vivre, il allait travailler pour le Seigneur. Puis s'il allait mourir, ben, il allait être dans la présence du Seigneur. Mais ça, c'est important. Donc on a juste à regarder à sa vie à Paul. Puis plus on va être zélé pour le Seigneur, plus on va souffrir. Puis des fois, on se demande si nous autres, on ne souffre pas tant que ça, dans un sens, on n'a pas des persécutions comme dans certains pays. C'est peut-être parce qu'on ne proclame pas autant la parole de Dieu, puis qui fait en sorte que Satan s'attaque à nous pour nous arrêter. Donc, plus on s'implique dans l'œuvre du Seigneur, plus on va rencontrer de l'opposition. Oui, parce que on va dans un monde qui est en opposition au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, n'importe quel poisson mort peut descendre la rivière. Mais pour remonter la rivière, ça prend un poisson vivant. Puis même quand on voit les saumons, ils remontent les rapides, puis même des chutes. Mais c'est comme ça la vie chrétienne. On est à contre-courant. Puis il faut s'attendre à ça. Il faut réaliser que ça va être ça la vie chrétienne. Mais on ne se décourage pas. Parce que le Seigneur a dit: Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Puis on peut dire: Que peut me faire un homme? Parce que qu'est-ce que les hommes peuvent nous infliger? Ça ne peut jamais nous enlever cette vie éternelle que le Seigneur nous a donnée, puis l'espérance de la gloire pour l'éternité. Mais on va aller dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, au verset 12, ici il dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une promesse. Que si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ, on va rencontrer l'adversité. On va rencontrer la persécution à cause du fait qu'on fait avancer l'œuvre du Seigneur Jésus sur la terre. Puis on sait qu'il y en a un qui est opposé à cette œuvre-là, parce que si le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, on sait que Satan, lui, il veut qu'il y en ait le moins possible qui soit sauvé. Puis on est contre lui. On va contre lui, mais avec la puissance du Seigneur. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, on est une armée invincible qui continue à avancer l'œuvre du Seigneur. Mais quand on parle, on revient au levain, qu'on doit se séparer du levain. Quand l'Écriture parle du levain, mais il y a différentes formes de levain qu'on va regarder un peu rapidement avant de. Premièrement, il y a le vieux levain. Dans 1 Corinthiens 5, au verset 7 à 8, on sait que Paul se réfère à ces types-là qui étaient dans les fêtes de l'Éternel. Puis dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, le chapitre où il nous parle qu'il y avait du péché qui s'infiltrait dans l'assemblée, qui devait juger. Puis dans le chapitre 5, les versets 7 à 8, Paul les exhorte. Il dit, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, donc c'est la fête des pains sans levain, qui est la vie chrétienne. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le vieux levain qui est mentionné ici se réfère probablement aux vieilles habitudes acquises avant la conversion. Vous savez, on avait des habitudes avant de se convertir avec lesquelles il faut lutter. Il faut se séparer de ces vieilles habitudes-là qu'on avait, ça nous revient facilement. Hein. En vrai, des fois, il y a des gens qui ont eu de la victoire sur des vieilles habitudes, puis quand ils s'éloignent du Seigneur, ces vieilles habitudes-là reviennent. C'est à cause de la chair. Puis la chair qui ne s'améliore jamais. Il faut faire attention à ces choses-là. Il ne faut pas en revenir à ces vieilles habitudes-là. Le Seigneur nous en délivre pour qu'on puisse être avec lui. Là. Fait que c'est pour ça que ça, le vieux levain représenterait les vieilles habitudes qu'on avait auparavant quand on était quand on n'était pas sauvé. Donc maintenant qu'on est sauvé, il faut que ces choses-là disparaissent de notre vie. Puis il nous parle aussi en même temps du levain de malice et de méchanceté. Le vieux levain, mais il nous parle aussi un levain de malice et de méchanceté. Puis c'est important qu'on se sépare de ce levain-là aussi. Dans Éphésiens 4, 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On dit, ça ne se peut pas que ce soit au milieu avec des chrétiens. Ben oui, c'est possible. Il faut se séparer de ces choses-là. C'est vraiment triste quand on voit ces choses-là parmi les chrétiens. Mais ici, dans Éphésiens, il parle à des chrétiens, puis il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, enlevez le levain. 1 Pierre 2,1 nous dit aussi, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Imaginez-vous que si on tolère ces choses-là parmi nous, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va être des querelles, des disputes. Déjà, comme on voit dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul parle aux Corinthiens, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a de la jalousie. Il faut que ces choses-là soient jugées. C'est pour ça que Paul écrit l'Épître aux Corinthiens pour les amener à juger puis enlever ce levain-là de leur vie. Mais aussi, on voit que il y a le levain aussi. Le Seigneur a parlé du levain des pharisiens et des sadducéens. Dans Luc, au chapitre 12, verset 1, il dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire, le levain des pharisiens? Eh bien, c'est une vie de mondanité. Il parle d'hypocrisie. C'est une vie de mondanité et de convoitise enveloppée d'un manteau de religion. Parce que vous savez que les pharisiens, ils voulaient paraître juste devant les hommes. Le Seigneur en a parlé. Ils faisaient des longues prières. Il y avait des phylactères. Ils voulaient vraiment montrer qu'ils étaient des gens religieux. Mais à l'intérieur, il y avait la mondanité. Puis il y avait la convoitise était là aussi. Mais enveloppée d'un manteau de religion. Ça veut dire c'est être religieux de façade, mais d'être vraiment, se laisser aller à la chair en cachette. Ça, c'est possible aussi de ce levain-là, il faut vraiment l'enlever. Le Seigneur parlait des pharisiens comme des sépulcres blanchis, parce qu'ils étaient beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient pleins de rapines puis de méchanceté. Puis on le voit dans leur relation avec le Seigneur Jésus, comment ils ont été méchants constamment envers le Seigneur Jésus. Ma petite fille, on lit des choses dans la Bible, puis souvent, quand il y a des petits dessins, puis quand comme Jean-Baptiste, quand il baptisait, ils étaient là avec les robes religieuses, mais tu vois qu'ils ne sont pas contents. Ils sont toujours de mauvaise humeur, ils sont toujours fâchés à cause de ce qui se passe pour le Seigneur Jésus. Mais c'est ça, c'était. En dehors, ils paraissaient bien religieux, puis c'est possible pour nous aussi. Il faut faire attention. Paul, le Seigneur Jésus nous avertit, puis Paul nous avertit aussi de faire attention à ce levain-là, se séparer de ce levain-là, pour qu'on soit réel devant Dieu, que notre vie soit réelle devant Dieu. On voit que Nathanaël, quand il est venu au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a dit, voici vraiment un Israélite dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Puis Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Mais le Seigneur Jésus savait que c'était un homme qui était sans fraude, qui était réel devant lui. Puis le Seigneur, il veut qu'on soit réel avec lui aussi. C'est pour ça qu'il faut enlever le levain des pharisiens, mais aussi le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, dans Marc 8, 15, le Seigneur dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est d'être en réalité, là, c'est d'être religieux pour les besoins. Tu es religieux parce que quand ça fait l'affaire d'être religieux, tu es religieux. C'est souvent les gens vont leur prêcher l'évangile, et parce qu'on leur prêche l'évangile, ils vont dire, ah, j'ai ma religion. Mais c'est vraiment juste comme une couverture. C'est juste vraiment comme ça fait mon affaire, là. J'ai ma religion, parle-moi pas de ça, je suis correct. Puis c'est un peu comme ça qu'Hérode était aussi, là. Parce qu'Hérode, vraiment, Hérode, c'était une famille, les Hérodes. C'était comme un titre ou un nom de famille, mais il y avait Hérode Antipas, il y avait Antipater, il y avait Hérode le Grand, il y avait Philippe Archélaüs, il y avait Agrippa. Mais ils étaient de la descendance d'Édom. Les Hérodes étaient de la descendance d'Édom, Édom qui était Ésaü. Ils venaient de l'Idumée. Ils avaient été conquis, puis ils avaient été ajoutés au peuple juif. Ils s'étaient soumis à des rituels juifs, comme la circoncision. Mais ils étaient regardés comme n'étant pas des vrais. Les Juifs les voyaient avec préjudice comme étant demi-juifs. Il avait été, puis lui, Hérode, il avait été mis roi des Juifs par le Sénat romain. C'est le Sénat romain qui l'avait mis roi des Juifs, parce qu'on sait que les rois, c'était des descendants de David. Mais là, maintenant, le Sénat romain l'avait mis, lui, comme roi des Juifs. C'est pour ça qu'il était le roi des Juifs, mais c'est un homme qui était religieux. Quand ça faisait l'affaire, pour sa position, pour sa renommée. Mais il était un monstre quant à son caractère. Hérode était un monstre quant à son caractère. Il était très rusé, il était jaloux, il était cruel, il était vengeur. Même il a fait tuer une de ses femmes et ses enfants à cause des doutes qu'il avait envers elle. Puis c'est comme ça qu'il a fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Parce qu'il avait entendu qu'il y avait un roi qui était né pour les Juifs, puis il voulait être sûr de s'en débarrasser, il ne voulait pas avoir de compétition, puis il a fait tuer tous ces enfants-là de 2 ans et moins. Mais quand il était à Jérusalem, Hérode était religieux, parce que c'était sa position de roi des Juifs. Il était religieux, mais quand il était à Césarée, il était païen, il avait un sanctuaire pour Baal, puis c'est un homme très païen. Hérode, il était idolâtre, il n'était pas du tout religieux, mais pour le besoin de la cause ou pour son avancement ou pour sa position, il se montrait religieux à certains temps, à certains moments. C'était comme pour son avantage à lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le levain d'Hérode, c'est d'être en réalité mondain, mais de se faire religieux pour les besoins. Puis, c'est ça qui était le levain d'Hérode. Donc, il faut se garder de ce levain-là. Il faut se séparer de ce levain-là. Quand on célèbre la fête des pains sans levain, c'est-à-dire notre vie chrétienne doit être réelle. Paul dit à Timothée, en parlant de ça, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, c'est ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais il y avait aussi le levain de la mauvaise conduite. Comme on voit dans 1 Corinthiens 5, il y avait comme le levain moral. C'est-à-dire quand on lit tout le chapitre 5 de 1 Corinthiens, on voit qu'il y avait du mal qui s'était infiltré, c'était comme du levain. Au verset 1, il dit, on entendit généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous est la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Puis là, il leur dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc ici, c'est le levain de mal moral, un levain moral qui, c'est de l'immoralité qui s'infiltre, parce que si un peu de levain va tout influencer l'assemblée, si on tolère le péché dans l'assemblée, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le péché va se répandre dans l'assemblée, puis ça va infiltrer toute la pâte. Mais aussi, il y a un autre levain, c'est le levain de la fausse doctrine. Donc, il y a le mal moral qui s'infiltre, mais il y a aussi la fausse doctrine qui s'infiltre aussi comme un levain. Puis ça, on voit ça. Hein? Quand il y a une fausse doctrine qui vient s'infiltrer, à un moment donné, on s'aperçoit que ça l'a imprégné toute la pâte, qu'il y a plusieurs qui sont emportés par ces fausses doctrines-là. Les fausses doctrines, vous savez, c'est attirant. Les fausses doctrines, ça plaît à l'intelligence. On pense être plus intelligent parce qu'on a découvert quelque chose que les autres ne connaissent pas. Puis on voit que la fausse doctrine, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui est pris dans une fausse doctrine, c'est de ça qu'il va parler tout le temps. Même au détriment de parler du Seigneur, ils vont parler, c'est toujours de ça qu'ils vont parler. Puis ça s'infiltre, ça peut s'infiltrer dans l'assemblée. Dans Matthieu 13, au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc, ici, la femme, on sait que la femme, ce n'est pas son rôle d'enseigner. Donc, ici, c'est une femme qui usurpe l'autorité et qui amène un mal doctrinal. Elle prend du levain, puis elle le met dans 3 mesures de farine, puis toute la pâte est infiltrée, toute la pâte va réagir à ce levain-là. Donc, la fausse doctrine va affecter la marche de l'Assemblée. Il faut faire attention à ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut rester dans la parole de Dieu constamment, être assez imprégné de la parole de Dieu pour discerner ce qui n'est pas de la parole de Dieu, ce qui est une fausse doctrine. Donc, la femme représente l'usurpation de l'autorité. Puis la femme, en type, est un type de l'Église. Puis on voit que c'est les cultes, on voit qu'ils sont, les cultes, ils sont basés sur quoi? C'est eux autres qui sont l'autorité et non le Seigneur Jésus. C'est ça qui fait la différence dans un culte. On voit qu'ils vont nous arriver avec la Bible, mais c'est la Bible selon la tour de garde. C'est la Bible selon le livre de Mormon. Donc, on donne une autorité haute à Ellen White dans les Adventistes. Donc, on donne une autre autorité que la parole de Dieu. Puis ça c'est certain que si on donne une autre autorité que la parole de Dieu, là, on est dans un danger. Ça va être des fausses doctrines. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui nous donne la vraie doctrine. Donc, ça, c'est important de réaliser ça. L'Église n'est pas l'autorité. C'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est l'autorité. L'Église doit se soumettre. Puis c'est assez dangereux aujourd'hui parce qu'on voit qu'on fait les choses pour plaire aux gens. Puis même si ça ne plaît pas au Seigneur, on veut que ça plaise aux gens pour que les gens viennent. Mais c'est important, c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. Nous, on ne doit pas faire de. Ce n'est pas à nous de décider. On doit reconnaître la volonté du Seigneur puis le laisser, lui, agir dans nos vies. Donc, la femme ici introduit le levain dans 3 mesures de farine. Puis, quand on parle de 3 mesures de farine, c'est pas. Il y a une raison qui parle de 3 mesures de farine. Parce que la saine doctrine est appuyée sur trois piliers. La saine doctrine est toujours appuyée sur trois piliers, puis les fausses doctrines vont toujours être une attaque contre un de ces piliers-là. C'est pour ça que Paul est dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11 au verset 4, il dit, car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, ça c'est un des piliers, la personne du Seigneur Jésus-Christ, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, l'Esprit de Dieu nous dirige toujours dans la vérité. Puis la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, un autre esprit, c'est une autre autorité que la parole de Dieu. Premièrement, une fausse doctrine par rapport à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Une autre, c'est l'autorité des Écritures. Puis ensuite de ça, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Puis Paul leur dit, comme une réprimande, vous le supportez fort bien. Il ne faut pas vous supporter quelqu'un qui fait une attaque contre un de ces trois piliers-là, qui sont la personne du Seigneur Jésus, l'autorité des Écritures et l'Évangile de notre salut qui est basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ seulement, sans les œuvres, par la foi en Christ. Donc, ça c'est les trois piliers de la saine doctrine selon la parole de Dieu. Puis les fausses doctrines vont toujours être contre ces choses-là. C'est sûr que si on a une erreur quant à la personne du Seigneur Jésus, puis on voit dans les cultes, il y a toujours une erreur. Ils ne donnent pas au Seigneur Jésus la place qui lui est due, comme le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. On ne lui donne pas sa place. Pourquoi? Parce que si on lui donne sa place, les autres n'ont plus de place. Si le Seigneur n'a pas la première place, il faut qu'il ait la première place. Puis vraiment, c'est qu'il est vraiment le Fils éternel de Dieu, Dieu lui-même manifesté dans la chair, mort selon les Écritures, après qu'il s'est fait homme, enseveli, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Puis notre foi est dans lui. Mais aussi, si on compte une autorité, l'autorité de la parole de Dieu, si on met une autre autorité à côté de l'autorité de la parole de Dieu, ben là, on est voué à n'importe quoi, là. N'importe qui peut dire n'importe quoi, puis on n'a plus de direction. Il faut vraiment qu'on soit basé sur la parole de Dieu. Puis c'est subtil parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous parlent de des choses. Puis moi, ils vont me dire, ben, je ne peux pas le nier, j'en ai fait de l'expérience. Je veux dire, je ne veux pas nier de ta. De, que tu sois. Je ne veux pas te dire que tu es menteur, mais moi, l'expérience n'est pas une autorité pour moi. T'as beau avoir fait n'importe quelle expérience, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, l'autorité finale, c'est la parole de Dieu et ce n'est pas d'autre. Puis l'évangile, ben, c'est ça quand on commence à parler d'un évangile, un salut qu'on peut perdre, ou un salut qui est mêlé avec les œuvres, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, on doit se repentir. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis il y a des gens maintenant qui donnent leur témoignage, puis ils ne parlent jamais de s'être repentis, ils ne parlent jamais d'avoir été convaincus de péché, ils ont été sauvés, mais de quoi? Vraiment, c'est la pierre d'achoppement de l'évangile. C'est quoi? C'est qu'on doit se repentir, on doit se reconnaître perdu devant Dieu. Puis se venir à lui comme la seule source de notre salut, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est très spécifique. Même à ça, il ne faut pas que la théologie devienne l'autorité. C'est pas que la théologie est toujours mauvaise, mais la théologie n'est pas l'autorité, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Parce que quand on parle de théologie, surtout aujourd'hui, on voit dans la théologie, il y a bien des choses qui nous arrivent de tous côtés, là, puis ça fait de la confusion. Donc, il faut que la théologie soit jugée à la parole de Dieu, par la parole de Dieu. C'est l'autorité, c'est la parole de Dieu, pas la théologie. Parce qu'on voit même des gens qui sont des théologiens qui ne sont même pas sauvés. Puis comment des gens qui ne sont pas sauvés peuvent-ils comprendre les choses de la parole de Dieu? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau spirituellement peuvent pas recevoir les choses de Dieu, c'est une folie pour eux autres. Ils peuvent même pas en juger. Donc, c'est important, comme il dit dans 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puis, il faut faire attention, vous savez, dans la religion qu'on a été élevé, la plupart de nous autres, c'était des théologiens, mais des théologiens qui étaient égarés, ils n'étaient pas dans la vérité. Donc, ce n'est pas les théologiens qui sont des autorités, c'est la parole de Dieu elle-même. Paul disait même des Béréens qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Puis le Seigneur a repris aussi un docteur de la loi quand il a dit à Nicodème dans Jean 3,10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est toi qui enseignes Israël, puis tu ne connais même pas ces choses-là. C'était quelque chose de base. Il lui avait dit, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis Nicodème ne savait pas de quoi il parlait. Puis le Seigneur lui a dit, tu es le docteur d'Israël, c'est toi qui enseignes Israël, puis tu ne sais même pas ces choses-là. Vous savez, c'est quelque chose. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais compris le salut. J'étais sauvé. Je suis allé voir le prêtre de notre paroisse, puis j'ai dit ça, puis lui, il m'a dit, dis-toi, tu vas me dire que je suis dans l'erreur. Et dis-toi, je savais ce qu'il voulait dire, moi, j'étais rien. Là. Mais lui, il dit, moi, j'ai 7 ans d'université, j'ai 27 ans de prêtrise, puis il dit, toi, tu vas me dire que je suis dans l'erreur. J'ai dit, c'est pas de ma faute, que le Seigneur a dit, je te loue, Père du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, puis que tu les as révélées aux enfants. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est l'autorité. Pas d'autre chose que la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention à ce levain-là qui vient, le levain de la fausse doctrine qui vient contre un des trois piliers de la saine doctrine. C'est la personne du Seigneur Jésus, l'autorité des Écritures, l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans la vérité et l'Évangile qu'on a reçu, comme Paul l'a donné aux Corinthiens. Donc, il faut faire attention, ça fait partie de cette fête-là, de marcher dans notre vie chrétienne en se séparant du levain, de ces levains-là qu'on a parlé, puis en se nourrissant des herbes amères, en sachant que ça va nous coûter des souffrances, mais c'est seulement pour un temps, puis on va être avec le Seigneur, il n'y aura plus de souffrances pour toute l'éternité. Fait que je m'arrête là, le temps est arrivé, qu'on est quand même assez. Je vais vous donner la possibilité de pouvoir poser des questions ou faire des commentaires. C'est que je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Laurent. Encore une
Okay.
fois, c'est toujours intéressant de vous entendre.
Merci Seigneur.
Je voulais juste vous dire que j'avais une mauvaise interprétation en ce qui concerne les herbes amères puis
OK.
manger à la hâte.
Oui.
Moi, je voyais ça comme il fallait qu'il mange à la hâte. Il y avait comme une certaine urgence d'agir. C'est pour ça qu'il mangeait des herbes amères. Je me disais, si j'invite des gens chez moi à manger, puis c'est amer, les gens vont avoir hâte de partir, OK? Mais je ne
Ouais.
voyais vraiment pas le fait que c'est à travers le mot l'amertume que les souffrances que le Seigneur avait endurées pour nous.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que c'est une mauvaise interprétation que j'avais. Puis grâce à vous, bien, je peux le comprendre plus à ce soir, là.
C'est ça, quand on pense à tout ce que le péché a emmené dans le monde, là, toutes les souffrances qu'on voit aujourd'hui, on voit les guerres, ces choses-là qui se passent présentement. Tout à cause du péché. Puis, mais il en a coûté des souffrances pour nous sauver. Puis maintenant qu'on est sauvé, on est appelé à souffrir aussi avant d'être dans la gloire. Mais le Seigneur nous a avertis de ces choses-là.
Peut voir qu'il y a trois sortes de souffrances finalement qu'on peut vivre. On s'est arrêté ce soir spécialement sur les souffrances qu'on vit parce qu'on suit le Seigneur. Mais il y a les souffrances que tout humain va vivre, c'est les souffrances qui sont sur la terre parce que le péché dans le monde. Donc le fait de souffrir de maladies, par exemple, ou de souffrir le deuil, de souffrir le fait que on peut avoir un travail pénible, ça, autant les croyants que les incroyants peuvent vivre ça. Donc, ça veut dire que si on vit ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on est fidèle à suivre le Seigneur. Et c'est une souffrance qui est dans le monde. Une autre souffrance aussi qu'on peut voir, c'est les souffrances qu'on vit quand on pêche nous-mêmes. Quand on commet certains péchés, il y a des conséquences de nos péchés. Donc ça, c'est des souffrances qu'on peut vivre, mais on ne devrait pas les vivre parce qu'on suit le Seigneur.
Ouais, c'est ça.
Et
C'est pas
les
à cause du
troisièmes
Seigneur.
souffrances, ouais, c'est ça. Mais les troisièmes souffrances, c'est qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est justement parce qu'on suit le Seigneur. Il y a des souffrances spécifiques qui sont reliées à ça.
Parle du Seigneur qui a eu une telle opposition de la part des pécheurs. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en souffrant, en luttant contre le péché. Ouais, c'est vrai. Merci, Donald, c'est une bonne. Mais c'est sûr que dans notre thème de se séparer de ces herbes amères-là qui nous parlent des souffrances en rapport avec notre salut.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis.
Hébreux 10, 38, là, quand tu as arrêté à mon juste vivra par la foi, là.
Oui.
Mais c'est ça, certaines personnes ils vont dire, mais c'est parce que le verset, quand ils vont poursuivre, il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, ils vont dire, ben, ils vont prendre ça pour la perte du salut, là. Ben, dans son contexte, c'est pas ça, là, que ça dit, là.
Non. Oui, c'est ça, il dit, nous sommes pas de ceux qui. Nous avons la foi. Il dit, attends un petit peu, comme dans le 10, il dit, quand il dit ça, il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, c'est vraiment, c'est la différence, ceux qui se retirent, puis ceux qui ont la foi. Le contraste, c'est ceux qui ont la foi.
Faut aller jusqu'au bout.
C'est ça, ouais. Ouais. Parce qu'il y a un apostat ou un rétrograde, il y a une différence entre un apostat et un rétrograde qui peut pas être évidente pour nous autres. Parce que Pierre, puis quand on pense à Pierre, puis à Judas, ben, on a l'exemple d'un apostat, c'était Judas. Puis le rétrograde, c'était Pierre. Mais à première vue, avant la fin de l'histoire, on ne sait pas lequel qui était un apostat et lequel qui était un rétrograde. On est arrivé à 8 heures, ce qu'on va peut-être terminer par un mot de prière. Puis si il y en a qui veulent continuer à parler, on pourra continuer, mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie, Seigneur, pour toutes les souffrances que tu as eues pour nous sauver, Seigneur. Toi-même, tu es venu ici et tu as souffert d'une façon qu'on ne peut même pas comprendre parfaitement, Seigneur, parce que c'est sûr, on voit tes souffrances physiques qui t'ont été infligées par les hommes, mais Seigneur, quand on pense à cette coupe de colère que nous méritions, que tu as subie, Seigneur, tu as bu jusqu'à la lie de cette coupe de la colère divine contre nos péchés. Seigneur, on te remercie parce que tu l'as fait pour nous, parce que tu nous aimes. C'était volontaire, comme tu l'as dit, personne ne m'ôte la vie, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Seigneur, on te remercie parce que tu as dit aussi le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Notre Dieu, on te remercie pour toutes ces choses. Puis on te demande, Seigneur, de nous aider à se séparer de tout levain, de tout mal doctrinal, moral, de toutes ces choses, cette fausse religion, Seigneur, le vieux levain, les vieilles habitudes. Aide-nous, Seigneur, à avoir la victoire pour pouvoir marcher pour toi à la gloire de ton nom. Seigneur, notre Pâque a été immolée. Notre agneau pascal s'est livré pour nous, son sang a été versé. Marchons maintenant d'une manière digne de toi, Seigneur. Le bâton à la main, les souliers aux pieds, prêts à avancer pour toi toujours, Seigneur. Merci parce que tu le mérites pleinement, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.